La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous connaissez cette expression ? Il faut qu'il soit très bien rempli, le vase, au point que le niveau de l'eau dépasse un peu, presque bombé, au-dessus du vase. On sait qu'au moindre coup, au moindre ajout, on sait que ça peut s'écouler. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le petit détail qui rend une situation intolérable, qui provoque le débordement, littéralement. C'est un mot de trop, souvent, c'est une petite phrase. C'est l'augmentation du prix de l'essence en Équateur ou en France. C'est une taxe sur l'application WhatsApp au Liban. C'est le ticket de bus ou de métro qu'on a gonflé de 30 pesos il y a 3 semaines au Chili. On vous dira c'est un épiphénomène. Vous répondrez que c'est une goutte d'eau plutôt, parce que le pays connaît depuis une vague de contestations sociales sans précédent. Vendredi, plus d'un million de personnes se sont rassemblées dans le centre de Santiago, notamment pour protester contre les inégalités, contre un système qui depuis des décennies n'a pas changé et qui soudain prend l'eau, littéralement. Souvent c'est ce même système, sont les gouvernements qui parlent de débordement, sans voir ou sans savoir à quel point la métaphore est juste, parce que tout débordement commence par une goutte d'eau, quand la coupe est pleine, vous savez, c'est la même idée, quand on en a ras le bol, c'est une belle expression.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, que voit mon invité d'aujourd'hui à travers cette foule qui gronde au Chili et partout ailleurs, ce pays, le Chili qu'elle connaît pour y avoir fait ses premiers pas de danseuse professionnelle, née en Argentine, elle est l'une des rares artistes étrangères à être parvenue à accéder au rang d'étoile, c'était il y a 7 ans, elle brille actuellement sur la scène de l'Opéra Garnier dans Body and Soul de la chorégraphe canadienne Crystal Pite, un ballet tout en tension, répétition, écho, surprise. Bonjour Ludmila Pagliaro.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Cette foule qu'on a vue descendre en masse dans les rues de Santiago du Chili et dans tant d'autres villes, qu'est-ce qu'elle vous raconte, à vous ?
C'est assez touchant pour moi parce que j'en ai vécu au Chili 3 ans et c'était la première fois où j'ai quitté mon pays. J'ai laissé ma famille pour aller à Santiago et devenir danseuse professionnelle. C'est là où j'ai créé des amitiés très très fortes. Et voir tous ces mouvements aujourd'hui sur des revendications sociales qu'il y avait déjà à l'époque où j'étais là-bas et voir que les choses elles sont pas changées depuis longtemps et que les jeunes ils sont pas accès à une éducation publique, qui la santé aussi c'est toujours un autre problème et voir ce mouvement là c'est assez touchant parce que je suis attachée à ces gens-là, je suis attachée à ces pays et
vous les avez au téléphone, vos amis chiliens en
oui,
ce moment?
J'en ai des amis au téléphone, j'en ai d'autres amis chiliens qui habitent ici en France aussi à Paris. Et oui, comme vous dites, c'est la goutte d'eau. Et il y a un moment où il faut arrêter de prendre les gens pour comment dire,
pour des imbéciles.
Je veux pas le dire.
Le mécontentement, la détresse, Ludmila Pagliaro, elles sont pas que chiliennes, elles existent partout et notamment sur le continent sud-américain, y compris en Argentine, votre pays où plus d'un tiers de la population vit actuellement en dessous du seuil de pauvreté. À quoi ressemblait l'Argentine quand vous l'avez quittée il y a 20 ans?
J'ai quitté l'Argentine dans un moment où l'économie elle était très stable. On avait qu'est-ce qu'on appelait le 1-1. Ça veut dire qu'on avait un peso argentin au niveau de d'un dollar. Donc on avait une vie en Amérique du Sud très agréable. Les gens ils pouvaient partir à l'étranger, ils pouvaient aller en vacances aux États-Unis. En fait, on avait une fausse économie pour le dire comme ça, où en fait ça durait 10 ans jusqu'au moment où ça craquait et c'était en 2001 où en fait les banques sont fermées, il y avait plus d'argent dans le pays. Beaucoup de gens ont perdu ses économies et on est rentré dans une crise.
Et ça, vous l'avez vu de loin. Aujourd'hui, quels espoirs, vous et votre famille, est-ce que vous placez dans l'élection du nouveau président péroniste, Alberto Fernandez, dimanche dernier? Il a été élu.
Il a été élu dimanche dernier. c'est difficile. Non, c'est pas difficile de parler de politique, mais c'est un pays qui vit en crise. Tous les 10 ans, il y a une nouvelle crise. Il y a beaucoup de corruption en Argentine.
Qu'est-ce que ça vous fait de regarder tout ça de si loin, de Paris?
Ça me donne beaucoup de tristesse aussi, parce que sincèrement, je vois pas la fin du tunnel.
Quand est-ce que vous avez compris, Ludmila Pagliero, que pour danser, comme vous vouliez danser, il fallait quitter l'Amérique latine?
J'ai compris ça quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de possibilité en Argentine, vu qu'il n'y avait pas de concours pour rentrer dans le ballet. J'ai commencé à souffrir, je me souviens un peu, j'en ai discuté avec ma mère. Et on n'avait pas les moyens économiques non plus pour me payer un voyage et pour aller faire une école à l'étranger. Mais je savais que je devais partir.
Et quand vous étiez petite et que vous faisiez vos classes, qu'est-ce que ça représentait, l'Opéra de Paris ?
L'Opéra de Paris, c'était quelque chose qui était très loin de moi, qui était presque impossible. C'était un rêve des grands, d'une histoire de la danse, je pouvais que la regarder de loin.
Vous en aviez entendu parler ?
Oui, on avait des vidéos de l'école des danses, on voyait la perfection de la danse, on voyait ça vraiment comme quelque chose de vraiment l'excellence de qu'est-ce que ça devait être.
Est-ce que vous saviez déjà à l'époque que vous seriez prête à tous les sacrifices pour intégrer cette institution un jour ?
Oui, les sacrifices commencent très très tôt. Quand on commence l'école des danses, il n'y a plus d'anniversaire de copains parce qu'on est à l'école des danses ou parce qu'on prend notre cours des danses. En fait, on s'amuse un tout petit peu moins parce qu'on doit passer notre temps à danser et apprendre qu'est-ce que c'est la danse. Donc les sacrifices commencent très tôt et on s'habitue à ça. Et en fait, oui, c'était des sacrifices, mais j'avais vraiment envie de devenir danseuse.
Mais je vous pose cette question, c'est en cela que votre parcours est si remarquable, Ludmila Pagliero. Lorsque vous avez fini par entrer à l'opéra avec un contrat de 1 an, vous avez dû tout recommencer à zéro, en fait, à Paris, en bas de la hiérarchie, alors que vous étiez soliste au Chili. Ce passage de la lumière à l'ombre, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ?
C'était un passage difficile quand j'étais à l'opéra parce que évidemment je voulais être sur scène et je pouvais pas. Je suis arrivée pour faire une production, j'en ai dansé et après j'ai su rester 6 mois, 8 mois en coulisses sans pouvoir monter sur scène. Quand au Chili j'étais déjà soliste, j'abordais des rôles importants. Mais en même temps ça m'a donné énormément du temps d'apprendre, d'observer, de comprendre. Il y a 154 danseurs à l'opéra. Chacun a des belles choses. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre et de me donner le temps à moi-même.
Mais d'apprendre quoi ? C'est ça qui est passionnant. Parce qu'effectivement, techniquement, en quoi l'enseignement dont vous avez bénéficié en Argentine et au Chili est-il différent de celui que vous avez reçu en France ? Quelle école de danse est-ce que c'est, l'Opéra de Paris ? En réalité,
L'école des danses de l'opéra, il y a une façon de faire les mouvements, il y a une élégance, il y a un positionnement, il y a des codes comme des styles. Donc, on retrouve l'école russe qui est très différente, l'école française, et avoir ce temps d'observer, ce temps d'apprendre comment ils abordent les mouvements. Discuter beaucoup avec les profs, avec les autres danseurs, ça m'a permis d'avancer.
Et cette approche différente du mouvement, comment est-ce que vous la définiriez ? Qu'est-ce qui change, en fait, vraiment ?
Il est beaucoup passé aussi pendant dans le bas de jambe, tout le travail de pied, toute la batterie de la danse aussi, c'est les sauts très rapides. Tout ça, c'était des choses que j'avais pas vraiment, on n'avait pas assez insisté dans mon école. Et il y avait des petites astuces pour pouvoir réussir à les faire qu'il fallait que j'apprenne à travers les profs, à travers l'observation des autres danseurs.
Vous savez que dans cette émission, il y en a une qui n'est d'aucune école. Vous la connaissez sûrement, Ludmila, c'est la culture. Et son actualité qui sèche sans vergogne depuis sa naissance. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 29 octobre ?
Tu peux en avoir encore un peu ?
Non, Obélix, non.
Oh, ça, c'est pas juste, alors. C'est pas juste.
C'est une sacrée surprise. Hier, le réalisateur et comédien Guillaume Canet a annoncé qu'il réalisera et jouera dans le prochain film d'Astérix. À ses côtés, c'est son complice de toujours, Gilles Lelouch, qui enfilerait le costume rayé d'Obélix. Titré L'Empire du Milieu, le long-métrage emmènera nos guerriers gaulois en Chine dans une aventure inédite dont le scénario sera signé par les deux réalisateurs de la saga des Tuches, Philippe Méchelin et Julien Hervé, depuis début du tournage, au printemps 2020.
Oui, il était là, il était sur cette commode.
Sous nos yeux, peut-être. Un trésor, une peinture présumée de Léonard de Vinci dont le sujet est l'humaniste Machiavel.
Et si c'était un Da Vinci? Un tableau représentant le philosophe italien Machiavel, peint au XVIe siècle, a été découvert dans les réserves du château de Valençay dans l'Indre. D'après les archives, la peinture de 55 cm sur 42 serait l'œuvre de Leonardo. Tout un faisceau d'indices tendent à créditer cette thèse. Néanmoins, une expertise plus poussée de l'œuvre doit être faite très prochainement pour confirmer sa paternité. Affaire à suivre. Something doesn't feel right. That's enough for one night. Hope you'll get home. Time to Dance, le groupe de pop psychédélique australien Tame Impala vient de sortir It Might Be Time, un morceau inédit tiré de son prochain album, maintes fois annoncé, jamais officialisé, mais que les fans se rassurent, cette fois c'est la bonne. Tête pensante de la formation, Kevin Parker en a profité pour révéler que ce quatrième opus, qui s'appellera The Slow Rush, sera disponible le 14 février prochain. À la bien.
Premier numéro, 300 000 exemplaires, tous vendus. Goscinny, Uderzo et Charlier venaient de créer l'hebdomadaire qui allait révolutionner la bande dessinée.
Enfin, 60 ans et presque toutes ses dents, il y a 6 décennies, donc le 29 octobre 1959, sortait pour la première fois Pilote, revue illustrée créée par Goscinny et Uderzo notamment, avec l'ambition d'être un Paris Match pour les jeunes. La publication voit naître dès son premier numéro un petit Gaulois nommé Astérix. Le numéro contient aussi des articles sur l'exploration spatiale ou l'ascension de l'Everest et s'écoule dès son premier jour à 300 000 exemplaires. Pilote fera les belles heures de la BD, accueillant notamment les aventures d'Achille Talon, Blueberry ou encore Valérian jusqu'en 1989. Nostalgie. Et la danseuse étoile Ludmila Pagliero, invitée de Boomerang ce matin pour son rôle dans Body and Soul, notamment une création de Crystal Pite pour l'Opéra de Paris. Body and Soul, c'est un ballet en 3 actes dans lequel s'alternent pas de deux et ensemble qui réunissent une quarantaine de danseurs. C'est assez impressionnant. Qu'est-ce que le langage chorégraphique de Crystal Pite, basé sur la répétition, le canon, le miroir, nous dit de la puissance du groupe, du collectif, Ludmila?
Elle a ce pouvoir de mettre... un groupe en scène, c'est des choses qu'on voit pas beaucoup dans la danse contemporaine, dans ce travail-là, elle arrive à mettre 40 personnes sur scène et à les faire bouger ensemble. Et là, une façon très impressionnante de réunir les gens, ça soit son équipe, ça soit sur le plateau, avec la technique. Cette démarche d'un ensemble, d'une communauté, elle arrive à la transmettre et il y a une énergie assez magique qui se crée.
Ce qu'il faut dire, c'est quand on est étoile, on est très seul, on danse souvent seul. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour vous qui êtes étoile de faire corps avec le groupe? Qu'est-ce que ça représente?
C'est retrouver un peu les sentiments que j'avais vécu en étant dans le corps de ballet. Il y a un énorme plaisir de pouvoir partager cette énergie commune sur scène avec les autres danseurs. C'est vrai que quand on est tout seul, on a des moments très agréables, mais on est aussi beaucoup tout seul, donc ça fait du bien de partager à nouveau.
D'autant que cette chorégraphe, Crystal Pite, elle semble abolir la hiérarchie qui existe entre les danseurs. Je pense à la neutralité des costumes, à leur uniformité, et évidemment à ce troisième acte dans lequel les danseurs sont masqués, et il est impossible en fait de les distinguer. Qu'est-ce qui vous unit aux autres danseurs? En quoi est-ce que vous êtes similaires? Quel est votre point commun à tous?
Notre point commun, c'est l'art, c'est la danse, Et c'est Crystal Pite, sa vision, son art, sa passion. Et on est prêt à tout lui donner à cette femme. Elle a une façon de communiquer, d'aimer les danseurs. On est vraiment prêt à tout pour la suivre dans son chemin et dans son expression.
Je me disais, c'est aussi peut-être une certaine idée du corps. Qu'est-ce que c'est pour vous, le corps d'un danseur? Ludmila Pagliero.
Le corps du danseur, c'est son élément principal. C'est son pire ennemi, c'est son ami, c'est essentiel. Et on a, moi, je suis vraiment, je pourrais dire que il y a moi et il y a mon corps. Il me parle tous les jours quand il se réveille. Il me dit comment il se sent.
Et il n'est jamais satisfait, si?
Des fois il est content, des fois il a très mal. Il n'est jamais satisfait. Il faut recommencer chaque jour. Des fois ça marche tout seul, des fois on se bat avec.
Vous est-il déjà arrivé de le pousser trop loin, ce
oui.
corps?
Oui, ouais. Ça nous arrive beaucoup, et spécialement parce que on est jeune, on n'est pas assez conscient parce qu'on n'a pas eu assez de blessures ou il n'a pas parlé très fort. Et donc on le pousse en pensant qu'il peut résister à tout. Évidemment, il est très fort. Mais il y a des moments, après, avec le temps, on commence à l'écouter de plus en plus.
Et dans ce cas-là, quand on va trop loin, il est où le plaisir de la danse? Il y en a encore quand même?
Il y en a encore parce que la danse, c'est pas simplement physique, c'est des émotions, c'est raconter des choses, c'est pouvoir s'exprimer, évidemment pas avec les mots, mais autrement.
Mais j'aimerais que vous nous communiquiez un petit peu de cette émotion, Ludmila, par les mots, en l'occurrence, parce qu'on est à la radio, en nous décrivant peut-être une scène que vous interprétez avec François Allu dans Body and Soul sur le prélude 24 de Chopin, interprété ici par Martha Argerich. Vous êtes là, tous les deux, sur la scène de l'opéra, et vous entamez ce pas de deux qui commence là maintenant. Qu'est-ce qui se passe?
À ce moment-là, on court les deux, on se rattrape. Il me je vole, il me pose, je vais tomber, mais je me retourne, je tombe dans ses bras, il va me soulever pour me descendre après, et il y a qu'une autre main qui vont s'accrocher, c'est le seul point commun qu'il y en a. Je retourne, il m'attrape par le visage, je tombe au sol, il me relève. Je retourne jusqu'au sol. Il essaie de me soulever. Il y a une espèce de vent qui nous emporte. Il m'aide à marcher. Il m'attrape par le cou. Il me soutient. Mais on est emporté encore une fois par quelque chose qui est plus fort que nous. Toujours avec une main ou une épaule, ou quelque chose qui nous retient ensemble. On est emporté par un tourbillon de la vie. On essaye de faire avec, mais on veut pas se lâcher. On veut pas se lâcher. On veut continuer jusqu'au bout, même si par moment il doit partir dans un autre endroit, et moi, à droite, à gauche, on se tourne autour. Et ce moment, ça finit par vraiment l'acceptation de ces tourbillons, les deux accrochés. Et on se laisse emporter par un tour continuel. C'est assez intense, c'est beaucoup d'émotions, c'est juste des symboles, c'est juste des images que Crystal Pite a pu nous donner pour interpréter ces moments de beaucoup de force. De tension et des choses qu'on peut avoir tous le sentiment d'avoir vécu un moment.
Le corps de l'autre, Ludmila Pagliero, le corps, en l'occurrence ici de François Allu, dans ce pas de deux, quel appui, quel secours, quel allié est-ce qu'il est pour vous?
C'est mon partenaire, c'est une force qui crée les deux. C'est quelqu'un qui est très très musculaire, très très fort, très intense. Moi, à travers ma personnalité, même si je suis très fine et tout, on a dû trouver un échange, une façon de parler la même langue, de le vivre, et c'est tout dans les émotions et le sentiment.
Vous pensez à la chute à ce moment-là?
Ouais. J'ai envie de me jeter. J'ai envie d'y aller jusqu'au bout, et parce que je sais qu'il sera là. Je sais qu'il est là juste derrière moi, et il peut me sentir Donc,
je le savais de toute façon. Je le savais parce que je peux lire dans vos pensées ce matin. J'ai l'impression, quelle émotion, en tout cas. I can read your mind, Ludmila. On va reparler de pas de deux, de corps, de danse juste après. Allez, un plaisir du mardi quand même, on le mérite là. Eye in the Sky, The Alan Parsons Project. C'était en 1982. Vous êtes sur France Inter avec l'étoile Ludmila Pagliero. Vous écoutez Boomerang. Quelle joie quand même.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Alors on pense évidemment aux grandes héroïnes de répertoire classique, quelque part entre la Délure et Carmen, se promenant sur les remparts de Séville en dansant la Séguédille entre deux gorgées de sangria, l'exalté et mystique Bayader, Gisèle, l'enfiévrée du dance floor, l'œil arabesque et clair, l'air doux, grand plié, le cheveu souple, tombé, pas de bourrée, avec son pull bleu ce matin, intense, l'étoile Ludmila Pagliero, invitée de Boomerang pour parler de danse classique, cet art auquel vous êtes venue relativement tard, Ludmila. Il se trouve que la première fois qu'on vous a inscrite à un cours de danse classique, bah vous avez pas aimé ça, il paraît. Pourquoi ?
Non, pas vraiment, j'avais pas aimé, mais parce que la façon comme le cours était donné, c'était pas très amusant. Évidemment, j'ai commencé la danse par pour trouver un plaisir, pour l'envie de danser, comme je faisais chez moi, dans ma cuisine, dans la cuisine, dans le salon, avec mes parents,
en
avec
Argentine.
Mes frères, en Argentine. Et là, d'un coup, on m'a mis à côté d'une barre. Il n'y avait même pas de piano, il n'y avait même pas de musique. C'était juste un bâton qui tapait par terre. Et un, deux, trois, quatre. Et ben, je suis sortie de là. Je dis à ma mère, ben non, je n'aime pas du tout, c'est ennuyant.
Aujourd'hui, c'est une question que vous vous posez beaucoup, la question de l'enseignement de la danse, de la rendre plus liée à ce principe de plaisir.
C'est très important parce que c'est quelque chose qui va marquer toute une vie, toute une carrière. Moi, c'est vrai qu'il y a des moments où, en fait, où peut-être je suis un peu débordée par toutes les choses que je dois faire et j'ai l'impression de pas pouvoir m'en sortir avec un, deux, trois valets au même temps, tellement de choses. Mais en fait, pourquoi je fais tout ça? C'est juste pour le plaisir. C'est le plaisir de l'enfance.
Et aussi, Ludmila Pagliero, je suppose, des prédispositions anatomiques, physiques, pour devenir danseuse, pour progresser aussi rapidement que vous l'avez fait. Vous, quel était votre atout dans la danse?
Mon atout dans la danse. Pour commencer, évidemment, il y a une des premières choses, c'est un examen physique, voir si on a un peu les conditions, les codes, on va dire, de la danse classique. Le coup de pied, l'élasticité, la musicalité, c'est très important. Et en fait, après, bon, je pense que qu'est-ce qu'aujourd'hui peut me définir un peu, c'est ma curiosité aussi, que j'ai toujours eu à apprendre, à voyager, à changer de vie, à prendre des risques pour me nourrir.
À quel moment vous avez compris que danser, c'était pas seulement de la technique, c'était aussi interpréter un personnage, c'était aussi jouer en fait?
Je l'ai compris quand j'avais à peu près 14 ans et j'ai commencé à avoir un peu marre de l'école, sincèrement. Et je voulais juste aller sur scène, avoir un costume, interpréter des choses, raconter des histoires. Et en revenant aujourd'hui dans ma vie, je me souviens que une des premières choses que j'avais improvisé quand j'étais petite chez moi pour Noël, parce qu'on faisait des spectacles chez moi, c'était je voulais danser, j'avais même pas commencé la danse encore, et j'avais créé l'histoire d'un petit oiseau qui voulait sortir de sa cage, et je dansais, mais en fait c'était l'interprétation qui était le déclencheur.
On termine toujours cette émission par de la danse. Ludmila, vous nous connaissez. Et en l'occurrence, vous avez choisi Eugène Onéguine, le ballet inspiré de l'œuvre de Pouchkine, composé par Tchaïkovski, chorégraphié par John Cranko dans les années 60. Pourquoi danser pour nous à la radio ce matin sur cette œuvre?
Parce que c'est une œuvre très forte que j'ai dansée pour la première fois. Plus exactement, quoi. Mais ça fait déjà quelques années. Et c'est une histoire très forte où l'évolution du personnage il est assez incroyable et on vit beaucoup des émotions. C'était une histoire d'amour aussi.
Il faut toujours qu'il y ait un peu d'amour et de politique, sinon c'est pas drôle.
Sinon c'est pas drôle.
Bon, score, on
évidemment, c'est des rôles d'interprétation, c'est des rôles où en fait, à la fin, par exemple, on pète un câble et pouvoir péter un câble dans une scène devant 2000 personnes, c'est assez marrant et c'était très amusant de se laisser aller en fait, d'arriver à un point où émotionnellement il faut juste complètement s'ouvrir et être dans le vrai.
Alors laissons-nous aller, soyons dans le vrai, en l'occurrence c'est un pas de deux de Eugène Onéguine que vous dansiez il y a 2 ans avec le danseur étoile Mathieu Gagneau.
C'est le dernier pas de deux, c'est le moment où Eugène Onéguine il revient après des années en fait, après cette distance qui a fait que elle a commencé une nouvelle vie, qu'elle a décidé de l'oublier. C'était son premier amour et il a eu un énorme chagrin d'amour avec lui. Et là, il y a une lettre qui est envoyée par lui avec une déclaration d'amour très 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 fort, mais elle peut pas changer sa vie. Elle peut pas laisser tout ce qu'il avait construit. Et en même temps, tous ces sentiments de la jeunesse, quand ils se sont rencontrés, ressortent chez elle.
Comment ?
À travers la peau, elle se rappelle, et son cœur qui va très très fort. Et en fait, il rentre dans sa chambre. Et il y a ce grand moment où il se met à ses genoux, il lui demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Elle essaye de se retenir, mais par moments, elle se laisse aller parce qu'elle l'aime. Elle n'a pas arrêté de l'aimer. Mais à la fin, elle lui donne la lettre. Elle lui dit, prends-la, va-t'en. Lui, il veut pas la prendre. Et elle finit par détruire cette lettre devant ses mains, devant lui. Et elle court. Lui, il vient, il se pose à ses genoux, il le jette dehors. Et en même temps, la seule chose qu'elle veut, c'est juste rester avec lui. Et lui, bon, elle le jette à nouveau, il part en courant. Et là, c'est un moment de désespoir complet. Parce que tu commences à pleurer. Tu viens de lui dire à l'amour de ta vie de partir. Et tu te trouves toute seule sur scène dans un désespoir complet. C'est assez fort.
Waouh ! Effectivement, c'est très très fort. C'est sur ces mots, ces gestes, cette histoire, ces regards qu'on va se quitter. Quel moment extraordinaire. Pour moi, pour les auditeurs de France Inter, merci Ludmila Pagliaro d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Body and Soul de Crystal Pite, c'est à l'Opéra Garnier jusqu'au 23 novembre. C'est une merveille qui vous donnera peut-être envie de vous mettre vous aussi à danser, seul ou ensemble. Tout de suite, les médias. Dorothée Barba, l'instant M, juste après ça.
Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici-bas avec moi, pour te maintenir intact en état?
Assez, c'est le titre du livre. Je ne me permettrai pas de dire ça, Dorothée. Du titre du disque, pardon. Assez de magenta sur France Inter. Je ne me permettrai pas de dire ça à Dorothée Barba.
Et surtout pas. Bonjour, Augustin. Vous allez bien?
Salut, ma chère Dorothée. Alors, je vous ai déjà dit bonjour tout à l'heure.
Oh,
mais bon, on peut
ça,
se le dire.
C'est la magie de la radio. Alors, je vous dis à demain. Et très belle journée.
Salut.